Je vous invite à trouver avec moi Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Avez-vous déjà eu des plans, des projets qui ne se sont pas passés comme vous avez prévu? Est-ce que cela vous est arrivé? Moi, cela ne m'est jamais arrivé. Tous mes plans se passent toujours comme je prévois. Alors, est-ce que vous croyez cela? J'espère que non. Parce que nous faisons des projets, n'est-ce pas? Nous mettons en place certaines choses, nous aspirons à faire des choses, d'aller dans des endroits, de rencontrer des personnes. Nous avons des rêves, nous avons des projets que nous mettons en place, et c'est formidable lorsque ces projets se réalisent dans les circonstances que nous avons prévues. Qu'est-ce qu'on est soulagé si jamais vous avez mis en place un gros projet et que toute chose se passe comme vous avez prévu, et à la fin vous regardez en arrière et quel soulagement. C'est terminé, mais les choses sont passées comme on a voulu, tant mieux, même merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais il faut reconnaître que c'est plutôt rare cela, n'est-ce pas? Quand on met en place un projet, il y a toujours quelque chose, toujours un couac, toujours peut-être une personne, une circonstance que nous ne contrôlons pas, des choses imprévues que nous n'aurions jamais pu prévoir de toutes les façons. Et dans l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui représente cela. C'est cet homme qui s'appelle Joseph. Joseph, lui, il avait un projet pour sa vie, j'en suis convaincu. Il était un homme, comme chacun d'entre nous, un être humain qui avait grandi de petit enfant jusqu'à la maturité. Il était adulte, on ne sait pas exactement quel âge il avait, mais au moins il était en âge de se marier. Et je suis convaincu que Joseph, lui, avait un plan. Il s'est dit, voilà, dans ma vie, je vais faire toutes ces choses. Et puis, comme on le sait, sa vie a été totalement bouleversée. Et en réfléchissant sur cette histoire, je ne pouvais pas m'empêcher de penser aussi à un autre Joseph qui a eu toute sa vie bouleversée aussi, n'est-ce pas? Joseph dans l'Ancien Testament. Lui qui, haï par ses frères, vendu en esclavage, va en prison de manière injuste, il reste pratiquement 3 ans, vous imaginez? Et puis est élevé au rang de deuxième en Égypte, et nous connaissons la suite. Et ces deux hommes, et nous allons nous intéresser au Joseph du Nouveau Testament, mais ces deux hommes, qui s'appellent Joseph, nous montrent justement l'attitude que nous devons avoir. Et lorsque nous pensons à Joseph du Nouveau Testament, n'oublions pas non plus Joseph de l'Ancien Testament, l'exemple il peut être pour nous. Alors, avec cela en tête, permettez-moi de lire Matthieu chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 25, et puis nous prierons pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Matthieu chapitre 1, verset 18 jusqu'au verset 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous demandons ta bénédiction sur ces quelques instants que nous passons dans ta parole, que tu éclaires notre intelligence, que tu nous guides à travers ces réflexions, que tu touches notre cœur, Seigneur, et que tu continues de nous transformer par ta puissance, et que cela soit pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom, nous prions. Amen. Alors, voici Joseph, qui, dans un sens, avait toute sa vie devant lui. Il est plutôt jeune homme, il a vécu un certain nombre d'années, et pourtant, il a le reste de sa vie devant lui, et il avait des projets. Et nous voyons au verset 18 que Marie, sa mère, ont été fiancées à Joseph. Joseph avait le projet de se marier avec Marie. Quoi de plus normal, n'est-ce pas? Un jeune homme, une jeune fille, habitaient tous les deux où ils étaient, se rencontrent, passent du temps ensemble, se font le projet de se marier. Et dans l'esprit de Joseph, qui lui ne se doute de rien, nous avons le bénéfice de 2000 ans de l'histoire, nous connaissons la suite de l'histoire, et du coup pour nous, d'apprendre qu'ils étaient fiancés et puis d'apprendre que Marie est enceinte, cela ne nous choque pas vraiment. Mais essayez de vous mettre à la place de Joseph. Lui, il avait son projet, peut-être il avait déjà une maison préparée, il avait son travail de charpentier, et puis il se dit, je me prépare pour passer le reste de ma vie avec Marie, on va fonder une famille, on va être là, on aura notre vie confortable. Et tout cela est tout à fait normal. Rien de mal, rien d'extraordinaire non plus. C'était un couple, un jeune couple, tout à fait normal. Et Joseph s'est dit, les choses vont se passer à peu près comme ça. Et puis, au milieu de tout cela, il apprend que Marie est enceinte. Et imaginez-vous comment Joseph a dû se ressentir à ce moment-là. Il a dû avoir le sentiment que maintenant, tous ses plans, c'est parti en miettes. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout ce que j'avais prévu, c'est bon à jeter. Je vais devoir tout recommencer. Tout doit passer par la fenêtre, je dois recommencer à zéro. Et je suis convaincu que nous pouvons nous identifier avec Joseph, n'est-ce pas? Nous avons nos plans, nous avons nos projets, et lorsque nos plans et nos projets ne se passent pas comme nous aurions voulu, il y a certains sentiments qui viennent dans notre esprit, n'est-ce pas? Et on peut comprendre Joseph qui avait certainement ces mêmes sentiments. Alors, imaginez-vous, verset 18, on y revient. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Alors, naissance, en général, c'est tout à fait normal, mais comme nous savons, cette naissance est hors du commun. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, ok, très bien, se trouva enceinte. Se trouva enceinte. Mais comment est-ce qu'on devient enceinte? On le sait. Cela n'arrive pas par accident, n'est-ce pas? Ça me frustre à chaque fois que le monde va parler de naissance inattendue ou une naissance qui n'est pas voulue. Mais bien sûr, vous l'avez voulu. Pour avoir un enfant, il a fallu quand même un acte entre un homme et une femme. C'est pas un accident, ça n'arrive pas par le hasard, ça n'arrive pas juste comme ça. Et Joseph, sachant très bien cela, Joseph il n'est pas bête, il n'est pas stupide, il est un homme intelligent. Et il voit que sa fiancée est enceinte. Quelle est la conclusion logique qu'il en tire? Elle a été infidèle. Il se dit, c'est la seule conclusion logique. C'est la seule chose. Il n'y a pas d'autres options à ses yeux. Nous savons qu'il y a la deuxième option, c'est que Dieu est intervenu, mais pour le moment, lui, il ne le sait pas. Et imaginez-vous, essayons de nous mettre à la place de Joseph. On est fiancés. Et là, lui-même, sachant qu'il n'a pas encore été avec Marie, s'est dit, la seule possibilité, c'est que elle a été avec un autre. Et imaginez-vous le choc. Lui, il vit sa vie tranquille. Il a ses routines de tous les jours. Il se prépare pour ce mariage dans un avenir proche. Et là, il apprend que sa fiancée est enceinte. Et pour lui, la seule possibilité, c'est qu'elle ait été infidèle. Et là, totalement, il est sous le choc. Il se dit, mais c'est pas possible. Et probablement, au début, il est incrédule. Il se dit, non, il doit avoir une erreur. Peut-être on n'a pas bien compris. Et je me demande s'il n'a pas essayé de raisonner, de justifier dans son esprit. Mais là, au début, il est sous le choc total. Il ne peut pas comprendre que quelque chose comme cela lui arrive. Et puis, je suis certain que après ce choc initial, il a dû passer à la frustration. Ah non, mais c'est pas possible. Non, mais Marie, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Mais j'avais tout planifié. La frustration qui est là. Il voyait tous ses projets, tous ses plans bien alignés et maintenant, plus rien. La frustration qui a dû envahir le cœur et l'esprit de Joseph quand lui, il apprend que Marie est enceinte avant qu'ils aient habité ensemble. Là, le contexte n'est pas du tout, le contexte historique n'était pas du tout le même que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, il est devenu normal, pratiquement, que avant qu'un couple se marie, ils aient des enfants. Cela ne choque plus. Et c'est vraiment dommage, parce que la Bible nous montre que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se faire. Mais aujourd'hui, le fait que Marie soit enceinte avant qu'ils aient habité ensemble, le monde va dire, et alors? Le problème, il est où? Mais nous, en tant que chrétiens, et surtout à l'époque, c'était quelque chose qui était extrêmement mal vu. Sujet d'opprobre. Marie aurait été rejetée, Joseph, on l'aurait regardé un peu de travers, et on voit Joseph sous le choc, il passe à la frustration, et je ne peux pas m'empêcher de croire que de cette frustration, il est passé à la colère. J'arrive facilement à voir Joseph qui, au fond de lui, qui voit tous ses plans qu'il avait bien préparés. Maintenant, tout est perdu et cette frustration passe maintenant à la colère. Déjà, la colère envers Marie. Dans un sens, même s'il ne restera pas en colère, comme on va le voir par la suite, mais au début, je peux imaginer qu'il s'est dit, « Mais Marie, qu'est-ce que tu as fait? Non, mais c'est pas possible! Comment est-ce que tu as pu me faire cela? Mais on s'était promis l'un à l'autre. » On avait un projet ensemble, et là, tu me fais ce coup-là? Non, mais est-ce que tu étais en train de penser? Qu'est-ce que tu as fait? Et Joseph, peut-être il n'a pas dit ces choses à Marie, mais on arrive facilement à comprendre qu'il les aurait pensées. La colère peut-être envers Dieu. Joseph, un homme qui craignait Dieu. Joseph, un homme qui voulait faire ce qui est droit, ce qui est bien. Et j'arrive facilement à imaginer que Joseph, ici, a dû se dire, « Mais Dieu, pourquoi est-ce que tu as permis cela? Mais Dieu, je te servais. Dieu, je vivais ma vie tranquille, tout se passait bien. Et maintenant, tu permets ceci dans ma vie. Non mais Dieu, je ne mérite pas cela. » Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me mets dans cette situation? Une colère contre Marie, colère contre Dieu, éventuellement une colère contre lui-même. Il a dû se dire, mais si peut-être je l'avais surveillé un peu plus. Peut-être si j'avais fait ceci ou cela. Et peut-être Joseph s'en voulait à lui-même. Et toutes ces choses, faut pas beaucoup d'imagination pour penser que ces choses pouvaient passer par l'esprit de Joseph. Et puis, après, maintenant, cette frustration, cette colère même, regardez le verset 20, parce que ce verset va relever un sentiment auquel peut-être on ne pense pas trop. Verset 20 de notre texte nous dit « Comme il y pensait, et on va revenir à ce à quoi il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas. Ne crains pas. » D'après ce verset, nous voyons que Joseph, lui, il avait peur. Il était dans la crainte. Parce que là, il voyait tous ses plans qu'il avait préparés depuis un certain temps. Pour lui, tout allait marcher, tout était bien aligné, il avait tout préparé, et maintenant il ne sait plus quoi faire. Maintenant, tout son monde est bouleversé, et il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il est dans la crainte, il a peur. Et on comprend bien, lorsque nous avons nos projets, lorsque nous avons les choses que nous préparons à faire, quand tout cela est bouleversé et nous avons le sentiment de ne plus avoir le contrôle, ça fait peur. Ça fait très peur. Et Joseph, lui, il avait peur. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus le contrôle. Il croyait jusque-là maîtriser. Il avait certainement demandé à Marie de se marier avec lui. Lui, il était à la base de cela. Lui, il prépare à pourvoir pour sa famille. Lui, il est l'instigateur de tout ceci. Il croit étant l'homme de la famille, le dirigeant, celui que Dieu même a placé dans son esprit pour diriger cette famille qui allait se former. Et maintenant, il a le sentiment de ne plus rien contrôler. Et Joseph, on comprend qu'il avait peur. Il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il avait une petite idée, verset 19 nous montre que justement il avait préparé un petit projet, il croyait ce qu'il allait faire, mais on voit il avait quand même peur. Et cela nous arrive aussi, n'est-ce pas? Nous voyons facilement et nous reconnaissons facilement ces sentiments en nous, lorsque nos plans et nos projets ne se passent pas comme nous voudrions. Et puis aussi, je suis convaincu que en Joseph, après tous ces sentiments, il y a la grande déception. Vous qui êtes mariés, vous savez, les temps des fiançailles, temps d'attente, et j'imagine bien que vous ne pouvez pas attendre justement d'être marié. Là, vous repérez quelqu'un, un homme repère une femme commence à s'intéresser à un homme, ils se fiancent, et puis ils attendent le jour du mariage, qui est plus ou moins proche. Et au milieu de cela, s'il faut rompre ces fiançailles, avec toutes les attentes qui étaient là, imaginez-vous la déception. Joseph, qui s'était donné de la peine physique, financière aussi, pour préparer ce mariage, pour commencer à fonder une famille ensemble, et maintenant, dans son esprit, il va devoir changer tous ses plans et partir sur une autre voie. Imaginez-vous la déception. Il s'est dit, mais je me suis donné dans mon travail, je me suis donné dans mes efforts financiers, il s'est donné émotionnellement, parce que c'est pas juste sur un coup comme ça, surtout à l'époque, qu'on allait se fiancer. Non, c'était quelque chose où on avait le projet arrêté de se marier. Et Joseph, je suis certain, dans son esprit, commençait déjà à penser à sa vie ensemble avec Marie. Comment ce serait, combien d'enfants ils allaient avoir, où ils habiteraient exactement, comment ils allaient faire la suite? Et maintenant, à ses yeux, tout est parti. Il doit recommencer à zéro. Et la grande déception. Oui, vis-à-vis de cette situation, mais aussi la grande déception, probablement vis-à-vis de Dieu. Parce que Joseph, étant un homme qui servait Dieu, qui faisait le bien, il a dû se dire, mais Dieu, je te sers, et tu me fais ceci. Non mais Dieu, je croyais que tu m'aimais. Dieu, je croyais que tu allais t'occuper de moi. Dieu, je croyais que j'étais sur la bonne voie, mais là, tu permets ceci, qu'est-ce que je dois faire? On comprend facilement la déception de Joseph. Et nous arrivons facilement à nous identifier avec Joseph. Dans des petites choses, bon, les petits projets pour la vie que nous avons, parfois ça se passe comme nous voulons, parfois non, mais parfois avec les grands projets de notre vie. Ça ne se passe pas comme nous avons prévu, comme nous voulons. Et quelle est notre réaction à ce moment-là? Il se peut très bien qu'on commence à réagir comme Joseph. Il se peut que ces sentiments de peur, de crainte, de colère, de frustration, de déception, d'incertitude commencent à nous envahir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que chrétien? Ben, nous pouvons nous inspirer de cette histoire, justement. Et tout d'abord, j'aimerais dire que ici, Joseph bénéficie d'une révélation directe de la part de Dieu. On va dire, oui, c'est très bien de nous comparer à Joseph, mais en fait, lui, il a reçu une vision d'un ange qui est venu lui annoncer ce qui allait arriver. Donc, c'est pas juste. Lui, il a bénéficié de quelque chose dont nous n'allons pas bénéficier. Okay? N'attendez pas à ce que dans une nuit, alors que vous êtes en train de dormir, vous ayez un rêve où Dieu va vous expliquer exactement ce qu'il faut faire. Ne vous attendez pas à ça, d'accord? Et pourtant, en tant que chrétien, aujourd'hui, 21e siècle, nous avons un plus que Joseph lui n'avait pas. Nous avons toute la Bible. Et Dieu se révèle dans toute sa grandeur, dans toute cette parole. Et c'est en elle que nous devons puiser les vérités pour notre vie quotidienne. Donc, n'envions pas Joseph dans ce sens. Nous avons quelque chose encore plus grand. Lui, il n'a reçu que quelques visions. Il y aura celle-ci. Il y aura celle où Dieu va lui dire de descendre en Égypte. Mais nous avons toute la révélation de Dieu devant nous. Et c'est justement en nous focalisant sur Dieu que nous allons arriver à surmonter ces sentiments que Joseph avait sûrement et que Dieu voulait calmer en lui et qu'il veut calmer en vous et en moi. Et justement, la première chose, lorsqu'on se focalise sur Dieu, on se rend compte que Dieu agit en son temps. Verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ceci n'est pas un accident, ceci n'est pas le hasard, ceci arrive exactement au moment où Dieu a prévu. » Galates chapitre 4 va nous dire que lorsque les temps étaient accomplis, Jésus-Christ est né. Pas avant, pas après, mais au moment décidé par Dieu, Dieu agit en son temps. Et ceci, si on ne fait pas attention, peut être extrêmement frustrant, parce que le temps de Dieu n'est pas toujours le nôtre, n'est-ce pas? Nous voulons que Dieu agisse tout de suite. Ou nous voulons qu'il aurait agi hier. Ou on se dit, Dieu, attends, agis demain. J'ai encore des choses à faire, attends un peu, agis demain. Mais Dieu agit en son temps. Il n'est jamais pressé. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais en avance. Non, il agit exactement quand il faut, au moment où il a décidé. Et si Dieu agit, c'est parce que c'est le moment qu'il faut. Et Joseph a dû comprendre cela, que ici, ce n'était pas un accident, ce n'était pas la faute à Marie. En fait, ce n'était la faute à personne. C'est Dieu qui intervient en son temps. Depuis des milliers d'années, le peuple d'Israël attendait le Messie. Et maintenant, Dieu est prêt à envoyer son Fils sur la terre et il agit à ce moment-là. Et lorsque nous comprenons que Dieu agit en son temps, nous arrivons à accepter ce qui nous arrive dans la vie. Les choix des autres, nos propres choix même, contribuent au plan de Dieu. Et Dieu va permettre les circonstances dans notre vie exactement au moment où lui l'a décidé, où il le faut. Et si quelque chose arrive, nous pouvons avoir l'assurance que cela arrive au bon moment. Quel encouragement pour nous et quel encouragement pour Joseph lorsqu'il a compris, c'est Dieu qui agit dans cette situation. Moi, j'avais mes plans, j'avais mes projets, je voulais que ceci se passe à ce moment-là, mais maintenant, c'est Dieu qui intervient. Il agit en son temps. Mais aussi, Joseph et nous aussi, a dû comprendre que Dieu ne se trompe pas. Et là, vous allez me dire, mais bien sûr, Robert, on sait que Dieu ne se trompe pas. Oui, mais est-ce que nous vivons toujours en conséquence? Ici, essayons de nouveau de nous mettre à la place de Joseph. Il apprend que Marie est enceinte, il sait que cela ne vient pas de lui. Pour lui, elle a dû être infidèle, mais là, il reçoit une vision de Dieu qui lui dit que c'est par la puissance du Saint-Esprit que Marie est enceinte. Qu'est-ce qui a dû passer par l'esprit de Joseph à ce moment-là? Même s'il reçoit cette vision de la part de Dieu, je me demande si pendant quelques instants, Joseph a dû se dire « Non, mais c'est pas possible. » Mais non, Dieu n'aurait pas agi comme ça. Dieu n'aurait pas... Oula. Dieu fait ce qu'il veut. Et Dieu ne se trompe pas. Et Dieu aurait pu choisir de faire autrement. Mais il décide en ce moment d'agir de cette façon, pour une raison qu'on va voir dans un instant. Mais ici, Dieu décide d'agir d'une façon qui semble inexplicable aux hommes. Mais il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas dans le temps, il ne se trompe pas dans les actions. Et tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est merveilleux. Et si Dieu permet quelque chose dans notre vie, si Dieu fait quelque chose dans notre vie, nous devons et nous pouvons le remercier. Nous devons voir sa main et voir et nous souvenir qu'il ne se trompe pas. Alors que Joseph reçoit cette vision, il aurait pu se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment comme cela que ça va se passer, que ça doit se passer? Mais finalement, il a dû se rendre à l'évidence. Dieu agit de cette façon. Et je dois l'accepter parce que lui, il ne se trompe pas. Nous nous trompons. Les autres nous trompent parfois. Mais Dieu, il ne se trompe pas, il ne trompe pas les autres. Il a fallu que Joseph le reconnaisse. Et lorsque nous souvenons de cela, ça nous aide à surmonter des choses qui peuvent arriver dans notre vie auxquelles nous ne nous attendons pas. Lorsque nos plans sont bouleversés, de savoir que Dieu ne se trompe pas, ça aide à surmonter ses sentiments. Et puis aussi, il a fallu que Joseph comprenne et que nous nous souvenions que Dieu est fidèle à ses promesses. Verset 22. Verset 22, un thème qui reviendra à plusieurs reprises au chapitre 2. Verset 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Dieu avait déjà annoncé ceci. En Ésaïe, en Michée, en pas mal d'autres prophètes, Dieu avait déjà annoncé la venue de son Fils et il avait déjà dit que son Fils serait né d'une vierge. Et parce que Dieu l'avait dit, il a fallu que la chose s'accomplisse de cette façon. Dieu est fidèle à ses promesses. Et Dieu nous a fait des centaines et des centaines de promesses dans sa parole. Et Satan se fait une joie d'essayer de nous faire douter des promesses de Dieu. Pendant des centaines et des centaines d'années, Israël attendait l'accomplissement de ses promesses. Et je suis certain qu'il y avait beaucoup de Juifs qui finalement se sont dit « ça fait si longtemps, c'est vrai, Dieu nous a promis ces choses, mais on n'est pas tout à fait certain, ou on n'est pas certain du tout que Dieu va les accomplir. Ça fait trop longtemps, c'est trop dur, c'est trop complexe, c'est bien beau ce que Dieu a promis, mais au final, j'y crois pas vraiment. » Et il a fallu que Joseph comprenne que Dieu est fidèle à ses promesses. Si Dieu promet de faire quelque chose, il le fera. Peu importe le temps, peu importe la complexité de la chose, peu importe même les erreurs humaines, Dieu est plus grand que tout cela et il fait que sa parole s'accomplisse à la lettre. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu qui contrôle nos circonstances et les choses inattendues dans notre vie. Nos plans qui sont bousculés et tout bouleversés ne peuvent pas annuler les promesses de Dieu. Dieu est fidèle à ses promesses. Et ici, si les choses se passent comme elles sont décrites dans ce passage, c'est parce que Dieu l'avait promis. Et au sein de cela, Joseph devait se reconnaître qu'il a la joie, le privilège de bénéficier de cette place privilégiée dans les promesses de Dieu. Que Dieu se servait de lui et de Marie pour accomplir la promesse de Dieu. Quelle grâce extraordinaire! Et les circonstances par lesquelles nous passons, qui peuvent sembler tout bouleversées, il est bien possible que Dieu se serve de cela pour accomplir ses promesses, déjà envers nous et peut-être envers quelqu'un d'autre. Dieu est fidèle à ses promesses. Il faut le croire, il faut vivre en conséquence. Et puis, quelque chose qui est extraordinaire dans ce passage, il a fallu que Joseph comprenne, et nous aussi, Dieu veille sur nous, même si nous ne nous rendons pas compte. Joseph, lui, il a connaissance que Dieu agit dans sa vie au moment où l'ange vient le révéler dans une vision. Mais est-ce que c'était à cet instant même que Dieu commençait à s'intéresser à Joseph? Quand Joseph commençait à se poser toutes sortes de questions, quand Joseph, au verset 19, avec sa logique humaine, avec les données qu'il avait, commence à mettre en place un projet de se rompre avec Marie, est-ce que c'est à ce moment-là que Dieu s'est dit « Ah mince, il faut que j'intervienne, il faut que je fasse quelque chose, Joseph va partir sur une mauvaise voie, ah !» J'avais pas prévu, là je vais intervenir parce que je ne le faisais pas avant, je m'occupais pas vraiment de Joseph, mais maintenant, comme il va faire une erreur, je vais un peu le recadrer. Est-ce la réaction de Dieu? Mais absolument pas. Du début jusqu'à la fin, Dieu veillait sur Joseph. Joseph en avait conscience lorsque l'ange s'est révélé à lui. Mais depuis sa naissance, Joseph était sous les regards de Dieu. Dieu dirigeait chacun de ses pas, depuis sa naissance jusqu'à ce moment-là et jusqu'à sa mort. Joseph n'en était pas vraiment conscient. Et pourtant, Dieu veillait sur lui. Et aujourd'hui, Dieu veille sur nous. Chaque jour, Dieu est là. Il nous dirige, il nous protège, et nous avons tant de témoignages de personnes qui ont été protégées des accidents, soit en voiture, au travail ou autre, des personnes qui ont été protégées, qui ont vu la main de Dieu agir. Mais est-ce que c'est simplement lorsque nous voyons la main de Dieu agir, que Dieu agit? Non. Dieu veille sur nous tous les jours, à chaque instant. Et même si je n'ai pas l'impression qu'il veille sur moi, en dépit de cela, il veille sur moi. Et Joseph a dû comprendre que Dieu s'était intéressé à lui de manière particulière pas simplement à ce moment-là, mais pendant toute sa vie. Et pour nous aussi, lorsque nous nous souvenons de cela, lorsque nous comprenons bien que Dieu s'intéresse de manière particulière depuis notre naissance jusqu'à notre mort, à nous, quel soulagement, quelle joie, quelle espérance, quelle louange cela doit provoquer en nous, envers Dieu. Parce que parfois nous oublions Dieu, n'est-ce pas? Parfois nous avons des gens sous notre responsabilité et on ne les surveille pas de trop. Mais Dieu, ce n'est jamais comme cela avec lui. Non, Dieu veille sur nous. C'est une vérité. Et puis, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous abandonne pas. Ici, Dieu met en place la naissance de Jésus-Christ. Il commence ce processus déjà en Marie. Et puis Joseph en a connaissance. Et ce n'est pas comme si Dieu lance ce processus et après dit, débrouillez-vous, faites le mieux que vous pouvez, essayez avec votre logique humaine, essayez avec vos meilleurs efforts et on va voir comment ça va se passer. Voyez Dieu faire ça? Non, pas du tout. Nous savons que Dieu a dirigé du début jusqu'à la fin à la fois la naissance et la vie de son Fils. Et ici, Dieu, oui, met en place ce projet, mais aussi, il ne l'abandonne pas. Joseph, lui, avec son raisonnement humain, avec les données qu'il était capable de connaître à ce moment-là, commencer à mettre en place un autre projet. Et si Dieu ne l'avait pas arrêté, il aurait rompu avec Marie. Chacun serait allé sur leur chemin particulier. Mais non, Dieu, parce qu'il veillait et parce qu'il n'abandonne pas ce qu'il met en place, est intervenu et a dit non, il y a autre chose. Voici ce qu'il faut faire, voici le chemin à emprunter, même si le reste de la communauté ne comprendra pas, parce que imaginez-vous, les autres qui entendent parler de naissance miraculeuse, que Marie est enceinte de Dieu, imaginez-vous combien cela a dû sembler ridicule, ouais, c'est ça, mais bien sûr, c'est exact, et pourtant, ils sont restés ensemble. Ils sont restés attachés à Dieu et ce que Dieu leur a donné. Et Dieu ne les a pas abandonnés. Du début jusqu'à la fin, Dieu était avec eux. Et c'est aussi une chose que Satan voudrait nous faire croire. Il nous tente avec cette pensée. Dieu nous abandonne. Dieu a autre chose auquel il doit s'occuper. Dieu s'est tellement occupé que maintenant il en a marre. Et il va nous laisser à nous-mêmes pour nous débrouiller. Non. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Dieu ne nous abandonne pas. Et même lorsque tout semble partir en miettes, tout est bouleversé, sens dessous, dessus. Dieu ne nous abandonne pas. Et comme Pierre va le dire, même lorsque nous sommes infidèles, gloire à Dieu, lui, il reste fidèle. Et Joseph a dû surmonter un ensemble de sentiments dans son cœur. Dieu a dû recadrer un peu les pensées, les sentiments de Joseph. Et gloire à Dieu, Joseph s'est laissé recadrer par Dieu. Et aujourd'hui, alors que nous sommes à quelques jours de cette célébration de la naissance de Jésus-Christ, alors que nous avons plein de préparatifs, et moi, le premier concerné, vous savez, j'ai fait tous les préparatifs pour mon voyage, et sans entrer dans les détails, il y avait certaines choses qui ne se sont pas passées comme j'aurais souhaité. Et j'ai dû faire face à ceci. Mais Seigneur, pourquoi ? J'aurais tellement voulu que ça se passe mieux, que ce soit plus facile. Et j'ai dû me rendre compte que non. Je dois m'inspirer de l'exemple de Joseph. Lui, il reste attaché à Dieu. Lui, il se laisse transformer par Dieu. Ses sentiments recadrés. Et en cette époque où nous sommes tellement occupés, où nous avons tellement de projets, et où il y a tant de choses qui peuvent aller de travers, et qui iront certainement de travers. Gardons à l'esprit, je dois rester attaché à Dieu, gardez à l'esprit que ce grand Dieu que nous servons ne nous abandonne pas. Il veille sur nous, il est fidèle, il ne se trompe pas et il agit exactement au moment où il faut. Que rien, pendant cette époque, vienne nous déstabiliser dans ses croyances. Et agissons en conséquence. Que ce soit une époque, oui, de fête, de célébration de la naissance de Jésus, de sa venue ici sur la terre, mais surtout que ce soit une louange envers Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie, pour sa gloire, et que les autres autour de nous voient cela. Que Dieu accomplit cette œuvre en nous et que nous puissions le laisser le faire. Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous te louons pour l'exemple de Joseph, nous te louons pour ce que tu as fait en lui. Nous te louons aussi pour l'avenue de Jésus-Christ sur la terre et tout ce que cela nous enseigne, l'exemple qu'il est. Il est le Fils de Dieu, il est mort à notre place sur la croix du calvaire pour accomplir notre rédemption. Et Seigneur, pardonne-nous pour nos mauvais sentiments lorsque les choses ne se passent pas comme nous voulons. Aide-nous à nous en repentir et de nous attacher davantage à toi, de nous souvenir de ces vérités et les laisser agir en nous, que tu continues de nous transformer par ton esprit et par ta parole puissante, et que tu reçois l'honneur et la gloire pour ce que tu feras dans la vie de chacun d'entre nous. En ton nom nous prions. Amen.